Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme pour cet épisode d'Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens. Vous écoutez votre émission d'actualité locale et associative sur le 87.7 FM, le DAB+ ou radiocampusamiens.fr. Nous sommes le jeudi 11 décembre, moi c'est Margot, l'animatrice du jour, et je suis accompagnée de Léo qui s'occupe de l'interview et de Colline qui nous a préparé une chronique en l'honneur d'un photographe anglais qui nous a récemment quittés. On écoutera Cérémonie de New Order et Cha-Cha-Cha de Karidja. D'abord, Léo, je te laisse avec nos invités.
Oui, merci Margot. Donc aujourd'hui, je reçois Valentin Michel et Stéphanie Noël du club associatif d'escrime Le Sabre Noir. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter Le Sabre Noir et nous dire comment est née cette association?
Alors Le Sabre Noir de anciennement Montdidier, qui va s'agrandir en devenant Le Sabre Noir de Montdidier-Moreuil, c'est une association loi 1901. Qui a été fondée par un maître d'armes qui s'appelle Frédéric Fenoul. Fondation, elle a été faite en 2017 dans le but de développer justement la pratique de l'escrime dans le département et notamment celle du sabre.
Donc vous deux, Valentin et Stéphanie, quels sont vos rôles respectifs et qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre cette association justement ?
Donc moi j'ai mon rôle, donc je suis trésorière adjointe, toute nouvelle nommée depuis cette année. Et donc je suis arrivée grâce à l'association, grâce à ma fille qui fait de l'escrime depuis l'année dernière.
Et du coup moi je suis arrivée en 2017, j'étais employée du coup par le maître d'armes Frédéric Fenoul, dans le but réaliser les entraînements, développer l'association et puis emmener les enfants en compétition.
Donc Valentin, tu l'as dit, tu es maître d'armes. Qu'est-ce que c'est plus exactement et comment on le devient ?
Alors maître d'armes, c'est le terme officiel pour désigner un entraîneur en escrime. Comment on le devient ? Il y a différents diplômes pour passer la formation. On a d'abord les diplômes d'animateur. Ensuite, on a les diplômes d'éducateur. On avait à l'époque un CQP. Puis ensuite, on a un BPGEPS et puis un DEGEPS. Et après, il y a un niveau au-dessus, donc c'est plus le maître d'armes, c'est le maître d'escrime. Et lui, c'est un niveau DESJEPS. Donc grosso modo, on a le niveau BAC, on a le niveau BTS et on a le niveau licence.
Ok. Et pour revenir à l'évolution du club, l'an dernier, donc, il y a eu les Jeux Olympiques 2024 à Paris, qui ont beaucoup d'ailleurs mis l'escrime en lumière en remportant plusieurs médailles. Est-ce que vous avez senti un impact concret sur votre club ?
Alors, il faut savoir qu'à chaque Olympiade, l'escrime est un sport fort en France. Donc, on est un gros pourvoyeur de médailles. Donc, on sait qu'à chaque issue des Jeux Olympiques, on va avoir une augmentation de la fréquentation des salles d'armes. Ça n'a pas fait exception. On est sur un record l'année dernière de nombre de licences dans le département et au niveau du club. On a le problème, par contre, que suite aux Jeux Olympiques, donc on a une grosse montée des licences, mais on est toujours sur la régression les trois années suivantes.
Est-ce que, par exemple, pour ta fille, justement, Stéphanie, ça a été le cas ou c'était plutôt pour découvrir un sport
C'était déjà dans un base de découvrir un sport. Après, c'est vrai que les Jeux Olympiques a fait aussi quand même ça a découvrir joué. En même temps.
Okay. Et si l'on revient sur l'escrime en général, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce sport, comment décririez-vous l'escrime ?
Alors c'est un sport, moi j'aime le qualifier d'un sport de combat, mais un sport de combat doux. C'est-à-dire que toi tu as pu essayer un petit peu Léo, oui. Tu as pu te rendre compte qu'en fait on est dans du duel, on a face à nous un adversaire qui cherche à nous porter des coups, mais on n'a pas besoin de taper, de frapper avec violence, en fait, une touche, notamment au sabre, c'est un effleurement, ça va suffire à marquer un point. L'arme la plus dure physiquement, au niveau des impacts, ça sera l'épée. Et la pression pour marquer un point, c'est une pression de 750 grammes. Donc c'est pas non plus hyper violent. Après, il y a l'investissement physique qui fait qu'on peut dépasser parfois les 750 grammes. On est protégé, on a du matériel qui fait que normalement les impacts sont bien tolérés.
Justement, on reviendra par la suite sur le matériel et la pratique. Il existe donc plusieurs disciplines dans l'escrime. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et quelle différence y a-t-il entre elles ?
Alors, on a l'escrime olympique. Donc, l'escrime olympique, c'est celle qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques à Paris. Donc, il y a trois armes. Il y a l'épée, le fleuret et le sabre. L'épée, c'est l'arme la plus simple à comprendre. On a une pointe, l'objectif c'est de piquer notre adversaire. On a le droit de toucher des pieds à la tête. Le premier qui touche marque un point, et si on touche en même temps, on a un point chacun. Un match c'est 15 touches, et ça dure 3 fois 3 minutes. Le fleuret ça reprend un petit peu les mêmes règles que l'épée. On touche pareil avec la pointe, c'est 500 grammes au lieu de 750. 15 touches, 3 fois 3 minutes aussi. Et on va viser qu'au niveau du torse. Parce que c'était une arme d'entraînement. L'objectif, quand on a développé le fleuret au XVIIIe siècle, c'était de faire en sorte qu'on apprenne à tuer l'adversaire et pas simplement le blesser. Donc on visait là où il y avait les organes vitaux. Il y a une philosophie aussi au fleuret qui est intéressante, c'est que je ne dois pas penser à tuer mon adversaire avant de mourir. L'idée, c'est que si je me fais attaquer, je dois pouvoir me protéger et ensuite j'ai le droit d'essayer de toucher l'autre. Et du coup, la dernière arme olympique, c'est le sabre. Donc là, c'est une arme de tranchant. C'est la seule arme où on touche avec le côté de la lame. C'était l'arme de cavalerie. Et du coup, on va viser au-dessus des hanches, donc la tête, les bras, le torse. Pareil, c'est un souci historique. L'idée, c'est de tuer le cavalier sans tuer l'animal. Donc on ne vise pas le cheval. Et pour expliquer simplement les règles, moi, je apparente ça un petit peu au tennis. C'est-à-dire qu'au tennis, vous tapez dans la balle, vous devez attendre que la balle revienne pour ensuite retaper dedans. Mais au sabre, c'est la même chose. J'ai le droit d'essayer d'attaquer mon adversaire une fois. Si je touche, je gagne. Si j'ai raté mon action, je dois le laisser m'attaquer, je dois me protéger. Et ensuite, j'ai le droit de réattaquer une seconde fois.
Et en me renseignant, j'ai cru aussi comprendre qu'une nouvelle discipline était en plein essor. Donc bien qu'on ne la retrouve pas aux Jeux Olympiques pour le moment, donc le sabre laser. Quel est votre ressenti à tous les deux sur ça? Et est-ce que cela poserait problème pour l'escrime tel qu'on le connaît, ou au contraire, cela montrerait un nouvel aspect du sport?
Alors, je pense que moi que c'est une pratique qui permet de plus médiatiser en fait l'escrime, parce que on arrête de travailler sur un plan de dimension. Les escrimeurs, ils peuvent se déplacer que vers l'avant, vers l'arrière, en escrime sabre laser. Les tireurs, c'est comme ça qu'on appelle les escrimeurs, se battent eux plutôt dans une arène, donc c'est un cercle. Ils sont capables de se déplacer à 360 degrés. Je pense que c'est artistiquement, enfin, c'est plus impressionnant en termes de pratique, parce que les gestes sont plus amples, il y a plus de mouvement. Après, en termes de technique, je pense qu'on s'éloigne un petit peu de la base du sport en lui-même. Mais ça trouve son public. La fédération s'en est approprié la pratique il y a 5 ans. Elle fait un bon travail, ça se développe. Pourquoi pas?
Non, pas du tout.
Non, je peux.
Donc, en tout cas aussi, l'escrime, c'est un sport accessible à toutes et à tous. Et à partir de quel âge peut-on commencer?
Alors, ça va dépendre des associations. Nous, à Montdidier, on prend les enfants à partir de 6 ans, plus 7 ans. Mais à partir de 6 ans, on commence à les accueillir. Après, il y a une pratique qui s'appelle le baby escrime, qui tend à se développer au niveau de Montdidier, qui se fait déjà sur Amiens. Et dans ce cas-là, on accueille les enfants à partir de 4 ans.
Si on revient sur le fonctionnement du club maintenant, combien de personnes le font vivre aujourd'hui, donc entre bénévoles, encadrants, salariés, adhérents?
Aujourd'hui, le bureau, il est constitué de 5 personnes. On a un président adjoint, une trésorière adjointe et une trésorière. Donc ça fait 5 personnes qui sont très actives au niveau de l'association. Après, le nombre de bénévoles peut augmenter, notamment quand on organise des compétitions. Parce que du coup, on accueille beaucoup de monde, c'est de l'organisation en plus, donc on a besoin de mains supplémentaires. Et il n'y a pas d'employés directement au niveau du club. En fait, moi, je suis mis à disposition par le comité départemental d'escrime de la Somme. Et du coup, ma prestation est facturée, mais il n'y a pas de salarié direct dans l'association.
Et justement, donc Stéphanie, tu es trésorière adjointe. Quel rôle joues-tu précisément? Est-ce que ça te demande aussi beaucoup d'implication?
Après, l'application, j'ai beaucoup, peut-être plus bénévole, justement, au niveau des compétitions. Je suis présente au niveau de l'organisation. Donc là, je débute un peu au niveau de la trésorerie. Après, moi, dû à mon métier, on va dire, je vais pouvoir faire la présentation des comptes parce que je suis comptable. Donc, je vais pouvoir apporter un petit peu dessus et essayer de trouver aussi des aides qu'on pourrait retrouver pour essayer d'augmenter un peu au niveau du club, investir dans du matériel.
Donc, on entend souvent dire aussi que faire tourner un club sportif devient compliqué. Est-ce que c'est aussi votre cas ou au contraire, ça, c'est plutôt bien ?
Ça va dépendre des années, ça va dépendre des adhérents et des parents des adhérents. Pour prendre un exemple, on a eu des difficultés à trouver des présidents, parce que notre ancien président était président depuis 2017. Il y a eu une élection l'année dernière pour un nouveau président qui s'était présenté. Malheureusement, on l'a vu un peu disparaître, passer les vacances de Pâques. Donc, on a refait une élection cette année. Et donc là, par contre, on avait une équipe de parents qui était vachement plus investie que l'année dernière. Et du coup, c'était moins compliqué. Donc, à voir ce que ça va venir. On a vu qu'il y avait une bonne énergie sur les groupes de conversation de l'association. Donc, pour l'instant, l'avenir est plutôt chouette.
Donc c'est aussi important d'avoir une bonne ambiance, notamment pour l'investissement et l'organisation. Ensuite, pour passer au sujet des compétitions, donc votre club, est-ce que participe-t-il à des compétitions? Et si oui, comment sont-elles organisées?
Alors, pour l'instant, nous, on a organisé quelques compétitions. On avait organisé des compétitions de zone, donc c'est les Hauts-de-France et la Normandie, qui se sont toutes bien déroulées. Comment ça fonctionne? En fait, il faut réserver un gymnase. Notre matériel, on va essayer de faire la course un petit peu pour ramener tout le matériel à temps. Puis, c'est une grosse après-midi d'installation, organisation d'une buvette. Et puis, après, c'est la gestion d'un directoire technique. Donc, c'est tout ce qui est informatique pour gérer la compétition. Comment ça se passe? Y a deux étapes. Il y a des matchs de poule. C'est un peu comme la Ligue des Champions au foot. On a des matchs de poule où il y a différents groupes. Les enfants ou les adultes s'affrontent dans leur groupe. On sort un classement intermédiaire. Et à partir de là, les mieux classés affrontent les moins bien classés. Ceux qui gagnent continuent la compétition jusqu'en finale. Ceux qui perdent rentrent chez eux.
Très bien. Et justement, comment on prépare une personne pour une compétition s'il vient à y avoir une préparation, est-ce que c'est très différent des cours plutôt loisirs?
Alors, moi, j'essaie d'intégrer la compétition dans mes cours loisirs. Donc, en fait, un compétiteur et un loisir vont apprendre la même chose. La seule différence, ça va être l'engagement du jeune sur les entraînements. Par exemple, Monroy Mondidier, on a possibilité de faire 3 entraînements dans la semaine. Donc Monroy le mercredi et Mondidier le samedi matin puis le samedi après-midi. Un escrimeur loisir va faire 1 entraînement semaine, tandis qu'un compétiteur, lui, va aller sur 2 ou 3 séances.
Et donc, j'aimerais aussi revenir sur la pratique et le matériel de l'escrime, donc, comme on en avait parlé un peu avant, qui peut impressionner au premier regard. Mais est-ce vraiment du coup un sport dangereux ou justement il y a le matériel nécessaire pour éviter ça?
Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'escrime. Pour l'instant, j'ai vu personne se faire transpercer, donc a priori, ça va. le matériel est aux normes, on a des normes de sécurité. Donc, on parle en Newton. En fait, pour bien comprendre, la tenue d'escrime, elle est faite avec du Kevlar. C'est un peu comme du gilet pare-balles. C'est évidemment moins fort parce que... On se tape pas dessus aussi fort qu'une balle de pistolet. Mais non, c'est conçu pour. Les lames se cassent, mais elles sont faites de façon à ce que ça passe pas au travers. Donc non, il n'y a pas de problème. Le dernier accident dû à la pratique de l'escrime en elle-même, c'est-à-dire hors maladie, arrêt cardiaque, tout ça, ça date des années 60. Donc,
donc ça remonte quand même assez longtemps.
C'est ça.
Et pour débuter, est-ce qu'il faut du matériel en particulier ou si oui, est-ce que le club fournit de l'équipement aux débutants?
Nous, on va demander à un débutant de venir avec sa paire de baskets, son pantalon de sport, un t-shirt. Après, toutes les associations d'escrime, en général, sont équipées de matériel. qu'on met à disposition des adhérents, donc soit gratuitement comme à Montdidier, soit en location.
Ok. On va ensuite cette fois parler des activités proposées au public au sein de votre club. Quel type de cours ou d'ateliers proposez-vous ? Peut-on y retrouver par exemple donc aussi bien, comme j'en avais parlé un peu avant, des cours collectifs que des cours individuels ?
Ouais. Alors nous on marche essentiellement aux cours collectifs et ensuite dans les cours collectifs vont s'inscrire des leçons individuelles. Si on prend le samedi après-midi, c'est un créneau qui est plus spécifique aux tireurs. Donc souvent je sors du matériel électrique comme ça, j'ai mon groupe qui lui fait des matchs et je me mets en tête à tête avec une personne et puis je fais des roulements pendant une heure et demie. Où on va travailler un aspect plus technique, plus tactique, sur une durée de 15-20 minutes.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés cette saison ? Et on va dire d'un point de vue écart, la moyenne d'âge ou même justement la personne la plus âgée au plus jeune, comment ça se passe ?
Alors là, on est sur 38 adhérents. Le plus jeune a 6 ans. Et plus âgé doit avoir 55 ans, 55-56. La moyenne d'âge, on est plutôt sur du jeune. Cette année, on était plus sur du plus âgé il y a quelques années. Mais là, on a beaucoup de jeunes. Donc, on a une grosse masse de collégiens lycéens. Un peu d'enfants et quelques adultes. Qui ont la cinquantaine, 44 ans, de 44 ans à 55 ans.
Donc si j'ai bien compris, enfin en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, il y a une adaptation aussi des séances selon les tranches d'âge.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est compliqué de demander le même investissement à un enfant qui a 6 ans, déjà au niveau de la concentration, qu'à un adulte ou un lycéen. Donc non, on fait des choses différentes, on s'adapte au public. On va aller plus sur du jeu avec les enfants, plus sur la préparation physique chez l'adulte.
Et justement, pour rebondir sur les âges, aujourd'hui, quel est à peu près le ratio adulte-jeune dans le club ?
Bah, au niveau des... Alors, je ne vais pas reparler adulte-jeune parce que ça va être compliqué, mais j'ai trois quarts des adhérents qui sont mineurs et du coup, un quart d'adultes.
Ok. Et pour finir cette interview, les personnes qui seraient intéressées pour vous rejoindre, quel type d'abonnement ou de formule leur proposez-vous ?
Donc on est sur une saison, sur un coût à l'année. Cette année, on était à 185 €. On a toujours 3 séances gratuites pour permettre de se faire une idée et pas distribuer son argent sans avoir vraiment une idée claire de ce qu'est la pratique parce que beaucoup pensent que ça ressemble à Zorro, les films de Cap et d'Épée. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de règles du jeu qui font que c'est vachement plus technique que ce qui paraît. Donc, ouais, on est à 185 €. Avec des facilités de paiement, on prend les chèques collégiens, les passeports. On peut payer en plusieurs fois s'il y a besoin. Le matériel est prêté gratuitement. On demandera juste un chèque de caution de 200 €. Et il faut savoir qu'en s'inscrivant à Montdidier, on peut aller au club d'escrime à Albert, on peut aller au club d'escrime à Moreuil, on peut aller au club d'escrime d'Amiens.
Et dans ce cas-là, donc, comment on peut s'inscrire ? Est-ce qu'on doit vous contacter, venir sur place directement ?
Donc on a un site internet, Escrime Montdidier. On a aussi une page Facebook, donc ça s'appelle le Sabre Noir de Montdidier. Après, je suis disponible sur mon numéro de téléphone, pareil, qui se trouve facilement sur les sites internet, sur les pages Facebook. Et voilà, il y a le comité départemental Escrime de la Somme aussi qui a une page Facebook sur laquelle on peut me joindre.
Très bien. Et avant dernière question, quelles sont vos actualités du moment ? Parce que par exemple, il y a des compétitions à venir ou d'autres événements qui seront organisés
Oui, là, dimanche, on se prépare pour une compétition du coup, régionale où on va à Roubaix. Du coup. Donc là, on est plus sur la catégorie un peu plus vieux, entre guillemets, au niveau des âges. On n'est pas sur les jeunes. Et après, là, on est en train d'organiser justement, avec le club justement, de Montdidier-Moreuil, une organisation départementale et qu'on l'organise.
Et un dernier mot pour nos auditorices. Pourquoi venir essayer l'escrime chez vous ?
Question piège.
Pourquoi ? Déjà, tout le monde a déjà fait de l'escrime. On a tous été, quand on était petit, dans les bois, on a tous pris un bâton et puis on a tous joué à l'épée. Donc c'est un moyen de poursuivre son imaginaire, d'aller voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Si je prends l'exemple de Zora Brahimi, elle a commencé l'escrime à 40 ans. Et cette année, elle nous a fait le plaisir d'être qualifiée au championnat du monde au Bahreïn, donc, où elle fait 14e sur 30. Donc avec 4 ans d'escrime, elle arrive à affronter l'élite du sabre international. Donc il n'y a pas d'âge. En fait, c'est disponible, c'est accessible à tout le monde. On met pas de pression au niveau des compétitions, il n'y a pas de pression au niveau assiduité aux entraînements, on vient comme on a envie de venir. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur un club familial, plus que sur un club vraiment axé compétition et performance. Donc vous êtes les bienvenus.
Et toujours avec du respect, je trouve.
C'est important. Donc, comme quoi, tout le monde peut venir et tout le monde aussi peut saisir sa chance. Donc, merci beaucoup à vous, Valentin et Stéphanie, pour cette interview. Et
merci, Léo.
Merci.
c'était Cérémony de New Order et super bien celle-là, je la connaissais pas. Donc on est toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. Pour terminer cette émission, je laisse la parole à Colline pour sa chronique.
Merci Margot. Alors le 6 décembre dernier, on a perdu un photographe qui savait faire quelque chose d'assez rare, dresser un portrait saisissant des déséquilibres de notre planète et des dérives de nos modes de vie. Martin Parr s'est éteint à l'âge de 73 ans et avec lui disparaît un des regards les plus espiègles de la photographie contemporaine. Martin Parr, c'est ce Britannique un peu discret, né en 1952, élevé entre les tea rooms, les sandwich triangles et l'humour ironique made in England. Son grand-père était aussi photographe et c'est lui qui lui a mis un appareil entre les mains très tôt. Mais là où d'autres se rêvaient en quartier Bresson, lui s'est dit « et si je photographiais ce que tout le monde ignore ?» Pas les grandes guerres, pas les stars, pas les crises politiques, non. Les vacances à la plage, les pique-niques sous la pluie, les touristes en chaussettes dans leurs sandales, par exemple. Sa série la plus célèbre, The Last Resort, dans les années 80, c'est exactement ça. Des familles anglaises à New Brighton, une station balnéaire un peu défraîchie, des enfants qui lèchent des glaces qui fondent trop vite, des serviettes posées sur des parkings, des parents épuisés, un soleil qui n'est jamais vraiment là. C'est drôle, c'est parfois cruel, mais c'est surtout incroyablement vrai. On reconnaît tout, les corps, les attitudes, les excès, les couleurs un peu trop vives. Et c'est là que Parr est génial. Il ne sublime pas le monde, il le déshabille. Ses couleurs saturées, presque fluorescentes, sont devenues sa signature. Un mariage, il ne photographiait pas les mariés, il photographiait l'assiette de petits fours abandonnés sur une table en plastique. Un voyage touristique, il ne captait pas le monument, mais la touriste le nez dans son guide ou celui qui s'endort pendant la visite. Dans Small World, il fait une satire mordante du tourisme globalisé en y dénonçant avec humour les dérives du tourisme de masse et de la jet-set internationale. En 1994, il rejoint l'agence photo Magnum, un choix qui a fait grincer quelques dents parce que Parr ne correspondait pas au code classique du photojournalisme héroïque. Mais finalement, Magnum avait besoin de lui, un photographe de la vie réelle, pas seulement des grandes histoires. Et d'ailleurs, Martin Parr en sera le président pendant 4 ans. Bref, ce qu'il a documenté pendant 50 ans, c'est notre société, ses obsessions, ses contradictions, ses maladresses, le consumérisme, les loisirs, les classes sociales. Il avait ce talent incroyable pour repérer le détail qui dit tout. Comme cette photo d'une mouche sur un chapeau de soleil ou cet homme qui mange une saucisse avec passion lors d'un barbecue. Pour Parr, c'est un portrait sociologique. Et puis il y avait ce mélange d'humour et de bienveillance, car contrairement à ce qu'on croit parfois, Martin Parr ne se moquait pas, il observait, il montrait. Et il nous laissait nous reconnaître, ou pas. Ces dernières années, il se battait contre un cancer, mais il continuait à photographier, à publier, à exposer. Il avait même créé la Martin Parr Foundation pour soutenir les photographes britanniques. Alors oui, le monde de l'image est un peu plus gris cette semaine, mais il nous reste son œuvre immense, drôle, tendre, parfois grinçante. Des milliers d'images qui nous rappellent que le quotidien n'est jamais banal si on prend le temps de l'observer. Martin Parr est parti, mais ses photos, elles, vont encore longtemps nous tendre un miroir dans lequel on se voit sincèrement sans triche. Et si vous ne le connaissez pas, ou que vous avez envie de le redécouvrir, eh bien sachez, chers auditeurs, que dès le 30 janvier, au Jeu de Paume à Paris, une exposition rendra hommage à cet infatigable chroniqueur du monde contemporain, une grande exposition visible jusqu'au 24 mai 2026.
Merci beaucoup, Colline, pour cette chronique très touchante et une
avec
pensée
plaisir
à Martin Parr. Merci à Martin Parr aussi. Info Club Sandwich tous à sa fin. Et avant de terminer, je vous annonce quand même la diffusion d'un nouvel épisode de l'émission Radio Campus France Starting Block, dédié aux musiques émergentes. Rendez-vous donc à 18h ce samedi 13 décembre sur notre antenne avec le duo de musique électro The Name, d'origine aminoise, qui ont beaucoup fait parler de ces derniers temps dans le coin, mais aussi à travers toute la France, notamment avec la BO de la saison 2 de Bref. Nous, on les a vus en juin à Minuit avant la nuit et à la Lune des Pirates pour leur nouvelle EP Animus, sortie le 10 octobre. Merci de nous avoir écoutés. Info Club Sandwich est disponible à la réécoute sur notre site Radio Campus Amiens. Et pour se quitter, on écoute Cha 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 de Karidja. À demain!
top, top, top.